On va faire mieux. Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Vous êtes content d'être là ce matin?
Oui.
Le Seigneur est bon, pas vrai?
Il est bon.
Je remercie le Seigneur parce que malgré tout ce que nous pouvons traverser, malgré la personne qu'on peut être, on peut se juger soit bon ou mauvaise, mais lui, il ne regarde pas à ce que nous faisons pour nous faire grâce. Même si nous traversons des moments difficiles, ce n'est pas seulement des chants que nous avons entamés aujourd'hui, que nous avons entonnés, ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est une conviction qu'on a chantée. Le Seigneur est notre abri sûr. Amen. Il est notre abri sûr parce que chez lui, il n'y a pas d'ombre de variation. S'il nous dit qu'il nous aidera, si on ne voit pas encore l'aide, on l'attend. Car il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.
Amen.
C'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui est droit, c'est un Dieu qui est juste. Ce qu'il dit, ce qu'il attend de son peuple, c'est que son peuple reflète ses caractères. C'est que son peuple lui ressemble. Lorsqu'il a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous savez, c'est la première pensée que Dieu a pour l'homme. De faire l'homme, que l'homme soit son image et sa ressemblance. Je ne vais pas faire le détail de la Genèse pour vous dire tout ce qui s'est passé. Qui ne connaît pas ce qui s'est passé dans le jardin? Ah, je vais poser des questions alors. Non. L'homme a échoué. Dieu est bon. Il a toujours un plan pour sauver l'homme. Il a choisi un peuple. Ce peuple a échoué. Dieu est bon. Il a toujours un autre plan pour nous sauver. Il a choisi un seul homme, son fils, Jésus-Christ. Lui, il n'a pas échoué. Il a réussi. Disons merci, Seigneur. C'est là qu'est notre espérance. Même lorsque nous échouons, nous savons qu'un jour, nous réussirons quand même. Parce que Christ est avec nous. Nous allons justement parler juste une partie de la vie de ce peuple. Ce peuple qu'il a choisi. À l'Exode où ils disent que je choisis ce peuple pour que ce peuple soit la lumière des nations. Malheureusement, cette lumière n'a pas brillé parmi les nations. Aujourd'hui, le peuple de Dieu se constitue pas uniquement d'une nation, mais de plusieurs nations. Africaine, antillaise, yeah. De plusieurs peuples. Et ce sont ceux qui feront la volonté de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui font partie du peuple de Dieu. Israël a été choisi pour être la lumière des nations. Ce peuple qui a refusé de suivre Dieu comme Dieu lui demandait. Ce peuple qui a refusé d'obéir à tout ce que Dieu lui demandait. Division au milieu de ce peuple. 10 royaumes ont construit le royaume du nord. 2 seulement sont restés dans le sud. Or, dans le sud, c'est là qu'était le temple de Jérusalem. C'est là que l'Éternel donnait rendez-vous à son peuple pour le rencontrer. Le royaume du Nord a décidé de faire bande à part. Ils n'ont pas voulu, puisqu'ils sont séparés, à cause de l'erreur d'un homme, d'un roi, qui a décidé de conduire ce peuple dans l'esclavage. Mais le royaume du Nord est tombé dans l'idolâtrie. L'une des choses que Dieu n'accepte pas. Car il a dit au peuple, Dans Exode, la première parole qu'il a adressée dans sa loi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'a pas seulement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, mais il a dit, devant ma face. Où est-ce qu'on peut se cacher pour que Dieu ne nous voit pas? David a dit, si je monte au ciel, si je descends dans le séjour des morts, si je décide d'aller jusqu'aux confins de la terre, là encore, ta main me conduira. Le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel, le Tout-Puissant. Ils ont vu des prodiges, ils ont vu des miracles, mais après, ils se sont écartés. Dieu a prononcé son jugement. Vous savez, Dieu est patient. Ah, je pensais que tout le monde allait dire Amen! Dieu est patient. Parce que si Dieu n'était pas patient... Mon Dieu. Mais sa patience n'est pas éternelle non plus. Ah, j'ai pas entendu Amen. Pas encore. C'est pas éternel. Il a prononcé son jugement. Car le peuple du royaume du Nord a refusé d'obéir à Dieu. Aucun n'a survécu. Le royaume du Sud, qui est Juda, qui était dans la droiture, qui était dans la justice, a décidé de tomber également dans l'idolâtrie. Le livre de Jérémie nous montre le jugement que Dieu a prononcé sur Juda. Mais Dieu est bon, parce qu'il a promis aussi de garder un reste au milieu de ce peuple. Et c'est ce reste-là qui allait ressortir, qui allait revenir de l'exil. Tomber en Babylonie, Babylone. Et c'est là que nous allons justement lire la parole, à ce stade-là où le peuple est déporté en captivité. Et Juda a été déporté, Juda n'a pas appris d'Israël. Lorsqu'on parle du royaume d'Israël, du royaume de Juda, c'est juste une distinction pour faire. Le royaume d'Israël, c'est pour vers le nord. Le royaume de Juda, c'est vers le sud. Mais le royaume du nord a été détruit. Juda n'a pas pris le son. Juda s'est laissé aussi influencer. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Bien sûr, pas tous. Il y a certains qui étaient fidèles à Dieu. Mais c'est un peuple que Dieu appelle. Vous savez, nous, en tant que peuple de Dieu, nous ne devons pas nous considérer personnellement. C'est vrai, on dit souvent, le salut est personnel. Mais l'Église n'est pas personnelle. Et Dieu ne va pas venir chercher un homme, une femme. Dieu va venir chercher son Église. Voilà pourquoi nous devons tout faire ensemble pour que nous formions, pour que nous devenions cette Église que Dieu cherche. Jérémie a prononcé tout ce qui devait se passer. Tout ce qui devait se passer pour le peuple de Juda, pour le peuple d'Israël, réduit justement à ces deux royaumes. Mais Daniel nous explique comment la vie s'est passée là-bas. Nous lirons dans Daniel chapitre 3. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais nous allons nous arrêter sur quelques versets. Daniel chapitre 3 nous dit, verset 1er, le roi Nabucodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Puis il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait dressée. Alors, les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue que le roi Nabucodonosor avait fait ériger. Et ils se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. Un héros proclama à voix forte, « À vous, hommes de tout peuple, nation et langue, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabucodonosor a fait ériger et vous l'adorerez. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle le feu ardent. » C'est pourquoi au moment où tous les gens entendirent le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes de tout peuple, de toute nation et de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi avait fait ériger. Verset 8. Sur ces entrefaits, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Ta parole qui est source de vie. Ta parole qui est source de consolation. Ta parole qui est source de force. Seigneur, nous te remercions car ta parole fortifie notre foi. Or, celui qui a la foi, Seigneur, il t'est agréable. Seigneur, nous voulons tous être agréables à toi en ce matin. Alors nous te prions par ta parole de nous fortifier, de fortifier notre foi, afin que les épreuves ne viennent pas, Seigneur, ébranler cette foi, mais au contraire qu'au travers de ces épreuves, nous puissions grandir, mûrir, nous puissions nous rapprocher encore plus de toi, nous puissions vraiment te faire confiance, car tu es le Dieu qui tient toujours ses promesses. Seigneur, tu es le seul Dieu vrai. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et nous sommes vraiment heureux que tu nous aies choisis. Nous sommes vraiment heureux de te servir, toi le seul vrai Dieu. Merci pour tout ce que tu es dans nos vies. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas juste écouter la parole et à nous tourner le dos, Seigneur, en oubliant ce qu'on avait entendu, ce qu'on a vu de nous-mêmes. Mais que cette parole, Seigneur, qui est comme un miroir devant nous, nous aide, Père Saint, à voir notre état, qui on est, et que nous puissions prendre les bonnes décisions. Et ainsi, Seigneur, nous puissions marcher avec fidélité devant ta face. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Amen.
Le roi Nabucodonosor, roi de Babylone, un conquérant, un homme qui choisit, qui va faire la guerre, un homme qui assujettit beaucoup de peuples, dont justement le peuple de Juda, qui a mis sa confiance le fait que le temple de l'Éternel se trouvait au milieu de Juda. Jérémie l'explique bien. Nous n'allons pas entrer dans tous ces détails pour lire Jérémie. Mais je vous encourage à lire ce livre. C'est très enrichissant. Alors le peuple se dit, le temple de l'Éternel est ici. Le temple de l'Éternel est ici. Pourquoi? Parce que le temple de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu. Et lorsque Dieu est présent au milieu de son peuple, peuple ne peut pas être vaincu. Mais ce que Juda ignorait, c'est que dire que le temple de l'Éternel, c'est une chose, mais vivre selon la loi de l'Éternel, c'est une autre chose. On peut venir dans toutes les réunions des églises, prières, études, jeunesse, tout. On peut être celui qui arrive en premier et qui sort en dernier. Mais si on refuse d'obéir, si on refuse de chercher la volonté de Dieu, si on refuse de tendre vers la perfection, si on refuse d'adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme, si on refuse de s'aimer les uns les autres, c'est ce que Jésus-Christ a dit que nous devons faire. Si on refuse d'être des disciples dignes de Christ, il y a beaucoup de choses qu'on va rater, mes bien-aimés. Alors, Dieu prononce un jugement sur ce peuple. Le peuple est porté en captivité. Et ce roi Nabucodonosor, en Daniel 1er, en Daniel 2, nous montre justement qu'il a fait face à la manifestation de Dieu. Car en Daniel, lorsqu'il a fait le rêve, c'est drôle, hein? Le roi a fait un rêve, il a oublié le rêve. Et il demande à ce qu'on lui dise le rêve et qu'on lui explique le sens du rêve. Ouais, dire le rêve, c'est une chose. Trouver l'explication, c'est une chose. Mais te dire ce que tu as rêvé? Je disais à ma soeur tout à l'heure dans le train, j'ai fait un rêve. Le rêve était bizarre, mais je ne me rappelle pas. Bon, je ne suis pas Nabucodonosor, je ne peux pas lui dire de me dire le rêve. Non. Mais de dire le rêve et d'expliquer. Et vous savez quoi? En lisant ce passage, je me suis dit, mais les satrapes pourraient plus raconter n'importe quoi. Ils ne se rappellent pas du rêve. Oui, ils auraient pu inventer quelque chose. Ils ne se rappellent pas. C'est là que monte la puissance de Dieu. Il a rappelé à Daniel ce rêve. Et Daniel, lui, a donné le sens de l'explication. Et j'ai bien aimé la prière que Daniel a faite. Au chapitre 2, à partir du verset 20. Il a dit, « Béni soit Dieu, dès maintenant et à toujours. Car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. Il dévoile les secrets, les choses les plus profondes. On peut se cacher d'un homme. On peut se cacher hein, pour un homme. On peut chaque dimanche venir là et lui donner la, vous savez, la banane jaune. On sourit. Des fois, on le fait, ce n'est pas parce qu'on veut être hypocrite. Ce n'est pas parce qu'on veut cacher certaines choses. Des fois, on le fait, c'est parce que dans notre conception, nous pensons en tant qu'homme que le fait de dévoiler une épreuve, une situation difficile à des frères et sœurs, c'est un sujet de honte. Vous savez, la fierté humaine, elle n'est pas encore abolie. Hein? L'orgueil, il est toujours là. Il est toujours là. Mais réfléchissons un peu à cette attitude. Je suis au milieu de mes frères et sœurs. C'est vrai, la confiance, ça se construit. Je devais être en mesure, puisque je suis parmi mes frères et sœurs, puisque je suis dans une église, je suis là où Dieu, là où les disciples de Jésus sont. Je devais être en mesure, si j'ai un problème, je vais voir David. Ah, de toute façon, si j'ai un problème, je vais voir David, hein. C'est pas un exemple seulement. Je peux aller voir Théo, je peux aller voir Kini, je peux aller voir n'importe quel d'entre vous. Mon frère, aide-moi à prier. Je ne cherche pas obligatoirement que tu aies la solution. Mais mon frère, je traverse un moment difficile, aide-moi à prier, je le fais, hein. Ah ouais, les cours là, à l'institut là. Quand j'en ne peux plus. Ouais. Moi, je me dis, tant pis pour celui qui veut me trahir. Tant pis pour celui qui veut me pointer du doigt. Mais moi, je sais, Dieu m'a donné des frères et sœurs. Je compte sur mes frères et sœurs. C'est la pensée de Dieu. Je dois compter sur mes frères et sœurs. C'est vrai? Amen. Amen. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est la réalité. C'est pour cela que nous devons prier Dieu pour que Dieu puisse changer nos cœurs. Il voit les choses profondes et secrètes, ce qu'il y a dans les ténèbres. Pas la peine de cacher Dieu. Pas la peine de cacher à Dieu qui on est. Pas la peine de faire semblant devant Dieu. Il nous connaît tel que nous sommes. Et il est encore plus fort que nous parce qu'il connaît des choses que nous choisissons d'ignorer dans notre vie. Vous savez, des choses que nous vivons, des choses que nous avons vécues, que nous sommes dans le déni des fois. Nous refusons de faire face à ces choses-là parce que c'est trop dur. Mais le Seigneur est là. Il connaît ces choses. Et il est bon. Il peut nous aider. Alors j'encourage justement, si vous traversez par des moments difficiles, si vous traversez par des épreuves, allez parler à l'Éternel. Dites, Seigneur, voilà l'épreuve. Je ne veux plus agir, mais toi agis à ma place. Cherchons la face de Dieu. Ce peuple-là qui se trouve à Babylone ont reçu un message de Jérémie. En Jérémie 29, à partir du verset 7, il dit « Cherchez le bien-être du pays là où vous vous trouvez, car de son bien-être dépend aussi le vôtre. » Ils étaient en captivité. Des faux prophètes se sont surgis pour dire « Dans 2 ans, vous allez retourner en Juda, vous allez retourner dans votre pays. » Et Jérémie a dit « Non, parce que le Seigneur prévoit 70 ans pour vous de rester là. » Le roi Nabucodonosor a vu la grandeur de Dieu. Comment Dieu a révélé à Daniel les choses secrètes qu'il avait dans son cœur. Comment Dieu a donné l'explication. À la fin du chapitre 2, il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Daniel. Il a dit, il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux. Dieu n'est pas le Dieu des dieux. Dieu est le Dieu tout court. Parce que dire que Dieu est le Dieu des dieux, c'est Dieu est parmi. Dieu est plus grand que les autres dieux qui sont là. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul créateur. Paul le dit. Paul dit pour lui, les idoles, ça n'existe pas. Les faux dieux, ça n'existe pas. Mais il parle de la maturité spirituelle qu'il faut avoir pour comprendre ça. L'idole, c'est la créature qui revendique un statut divin. Parce qu'en dehors de Dieu, tout a été créé. Voici ce qu'est l'idole. Ce même roi qui vient de parler comme ça, et puis nous dit, le roi Nebuchadnezzar décide de d'ériger une statue de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Pourquoi? Pour que tous les peuples qui sont en Babylone adorent cette statue. On pourrait dire parce qu'il a reconnu que Dieu est le plus grand parmi les autres dieux. Bon, c'est bon, il est converti. Non. C'est la soumission à Dieu qui témoigne de notre foi, de notre conviction que Dieu est notre sauveur. C'est un principe, les peuples qui capturaient les autres peuples les forçaient à adorer leur Dieu. Voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle, voilà, il a plusieurs nations qui ont des dieux différents. Mais je fais une statue, je demande à ce qu'on adore cette statue, comme ça, tout le peuple est unifié. Je peux avoir un contrôle sur tout le monde. Mais il y a un problème parce qu'il y a un autre peuple qui a un Dieu. Qui a un Dieu qui est différent. Qui a le Dieu, le vrai Dieu avec eux. Mais eux, ils refusent de se prosterner. Shadrach, Meshach et Abednego. Question. Quel était le vrai nom de ces hommes? Allez, un brave. Je vais choisir, hein, sinon. Non, les trois amis de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Azaria. Allez, un deuxième. Anania. Et le troisième. Michael. Merci, Jonathan. Principe. On captive un peuple, on leur donne d'autres noms. Et les noms, ces trois noms correspondent à trois divinités babyloniennes. C'est une façon d'influencer les nations. Mais le peuple de Dieu, qui se trouvait en captivité, certes, mais restait le peuple de Dieu. Même lorsqu'on ne se trouve pas dans l'église, on est ailleurs, on reste des chrétiens, on reste des disciples de Jésus. On est au travail, nous sommes des disciples de Jésus. Nous sommes parmi d'autres jeunes, nous sommes des disciples de Jésus. Quel que soit l'endroit où on peut être, quelle que soit l'influence qui peut faire pression sur nous, nous sommes les enfants de Dieu. Eux, ils ont refusé de se prosterner. Alors le roi les a appelés. Et il leur a dit, mais est-ce vrai? Je ne crois pas mes yeux. Vous êtes sérieux là? Vous, les dirigeants, ah oui, parce qu'ils étaient des dirigeants, des responsables de province. Laissez ça pour ce peuple-là. Mais vous, les dirigeants, vous devez être les premiers à pouvoir faire ce que j'ai dit. Le dirigeant ne veut rien dire. Avoir un titre, une responsabilité, ne veut rien dire si on n'obéit pas à Dieu. Le roi s'est mis en colère. Le roi est déçu. Vous avez déjà déçu du monde autour de vous? Ça vous est déjà arrivé? Un jour, mon père m'a dit, je suis déçu. Parce que ce qu'il voulait que je sois, il n'était pas converti. Hein. Mais il est déçu parce que je ne répondais pas à ses attentes. Ça fait mal, hein? Surtout quand la personne vous est proche. Mais Dieu est bon. Amen. Mais ce même père, un jour, il m'a dit, je suis fier de toi. Le Seigneur s'est consolé et il s'est réparé les relations. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont des relations brisées. Vous avez déçu du monde. Bon, bien sûr, vous devez agir avec humilité. Allez demander pardon. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Notre ministère, c'est la réconciliation. Vous avez dit peut-être quelque chose qui n'a pas fait du bien à quelqu'un. Allez demander pardon. Ou bien même une personne, vous avez un frère ou une soeur ou un jeune, peu importe la personne. Le ministère qu'on a, c'est la réconciliation. Oui, ça fait mal, la déception. Quelqu'un vous a déjà déçu? Ah non. Et quand ça arrive, nous demandons toujours au Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'étais bon, je lui ai fait du bien. Hein? Quand les gens l'accusaient, moi, je le défendais. Maintenant, il tourne sa veste contre moi. Quel ingrat! Mais c'est parce qu'on ne prend jamais le miroir pour mettre devant nous. Des fois, nous sommes le premier ingrat. Parce que nous ne sommes pas fidèles vis-à-vis de Dieu tout le temps. Et ici, le roi est fâché, déçu. Si c'est comme ça, je vais faire de vous un exemple. Les patrons aiment dire ça, hein, des fois. Vous refusez de mentir pour lui, ben il va faire de vous un exemple. Comme ça, les autres là, quand je leur dis quelque chose, ils vont le faire. Il ordonna de chauffer la fournaise. Parfaitement. Pourquoi? Parce que ces hommes, malgré ses interventions, ont refusé. Refusé. J'aime bien la réponse de ces hommes. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego, où? Azaria, Anania et Michaël. Et voilà ce qu'ils ont répondu au roi lorsque le roi leur dit, « Ok, bon, ça, on m'a rapporté cela. Maintenant, je vais faire sonner les instruments. Posternez-vous. » La pression. Mais bien-aimés, ne cédons pas à la pression du monde. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que le monde qui arrive. Le monde nous dit, tu dois être comme ça. Le monde nous dit, pour être quelqu'un, il faut avoir dans tes mains, il faut avoir dans ta poche, il faut avoir la banque. C'est le monde qui le dit. C'est vrai. Une petite parenthèse vite fait. J'ai toujours eu des problèmes avec mes comptes bancaires. Ah, merci ma soeur pour ta sincérité. J'ai été commandé un chéquier. Comme tout citoyen français, a droit à un chéquier. La banque me dit, vous n'avez pas de revenus, monsieur, on ne peut pas vous donner un chéquier. Je ne vais pas vous dire quelle banque. Hein? Non, je ne vais pas faire ça. Mais je dis pourquoi? Mais tous les mois, j'ai de l'argent qui arrive sur le compte. Ce n'est pas un revenu. Non, monsieur, ce n'est pas un revenu. J'ai dit ok. Mais je continue à vivre. C'est vrai, ça m'a fait mal. Je me suis senti humilié. Mais je dis que ma vie ne se limite pas à ça. J'ai un Père dans le ciel, j'ai un avenir avec Jésus-Christ qui est plus que tout cela. Ça me permet de vivre, de trouver un certain confort. Mais Dieu est plus grand que ça. Et je me suis appuyé sur ça parce que je me suis dit, un jour, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. La transformation, un processus, ça n'arrive pas tout de suite, mais transformés. Je fais des efforts tous les jours dans mon intelligence, dans ma façon de penser, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon d'aborder les situations. Je n'agis plus de moi-même maintenant. Je prie, je cherche la face de Dieu, je cherche la volonté de Dieu pour agir. Seigneur, le monde dit ça. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Je lis dans la parole, c'est la parole de Dieu dit. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Ok Seigneur, je te prie que cela soit une réalité dans ma vie. Il répondit au roi. Oh Nabucodonosor, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas écrit dedans. Il n'a pas nécessaire de te répondre là-dessus. Après toutes ces menaces, ils savent, ils connaissent la fournaise d'Antin. Le roi n'a pas fait cette fournaise pour eux. C'était une punition, tout comme les Romains qui crucifiaient leurs criminels et qui laissaient le corps se dégrader sur la croix pour décourager ceux qui veulent se révolter. La méchanceté humaine. Ils connaissent la fournaise ardente. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente ou brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains au roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Ils ont été plus loin. Le roi a demandé juste de se prosterner devant une statue. Mais au cas où le roi a certaines pensées derrière sa tête, vous savez, des questions qui impliquent des questions. On vous pose cette question-là, lorsque vous répondez, ça donne une autre réponse, une autre question. Mais ils ont anticipé sur la réaction du roi. Notre Dieu peut nous délivrer, mes bien-aimés. Amen. Et s'il ne nous délivre pas? Et s'il décide de ne pas nous délivrer? C'est pas parce qu'il savait la suite de l'histoire. Hein? Je vais être sincère avec vous. Je ne dis pas que je réagis comme eux. Parce que je ne sais pas, il y a des fois, il faut être dans la situation pour savoir comment on peut réagir. Moi, je n'aime pas la chaleur. Ah ouais? J'aime pas avoir trop chaud. Oui, je sais, je viens des Antilles, mais quand même. Il y a des exceptions quand même. Voilà. Et j'arrive près de la fournaise ardente. Déjà, c'est chaud. Et le roi demande de chauffer ça 7 fois plus. Peut-être que j'aurais dit, ben prenez, allez-y, faites ça tout de suite. Attendez, je me plonge. Peut-être que je pourrais le faire aussi. Je ne sais pas comment je réagirais. Vous savez comment vous auriez réagi, vous? Non. Mais voici ce que la Bible dit pour eux. Sache, ô roi, que même s'il ne nous délivre pas. Vous savez, on a prié pour une sœur de l'Institut qui était malade, atteinte du cancer. Récidivée, en février, le médecin dit, elle ne te tiendra pas 10 jours. On a prié, on a demandé miracle, Seigneur. On a demandé la guérison, Seigneur. Elle n'est pas morte. Le Seigneur nous a répondu. En juin, la tumeur s'est réveillée à nouveau. On a prié, on a demandé miracle. Malheureusement, elle n'a pas passé le mois d'août. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prie, que Dieu peut faire ce que nous lui demandions? Je sais qu'elle est dans les bras du Seigneur parce qu'elle a confessé Christ comme sauveur et maître. C'est ça qui doit être le plus important. Dieu peut délivrer, tout comme peut ne pas délivrer. Dans cette situation-là, Dieu a délivré. Dans la situation de Job, Dieu a délivré. Mais dans la situation de Jésus-Christ, il a été crucifié. Ce qui est le plus important, c'est la volonté de Dieu. Dieu voulait que son fils meure parce qu'il avait un plan après. Nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Mais c'est chaque jour qu'on vit avec lui. Comme il nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Laissons le lendemain pour celui qui gère le lendemain. Sache, Owa, que même si Dieu ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant tes statues. Et nous n'adorons pas tes dieux. Au cas où tu pourrais rebondir après. Énervé, il a demandé à ses soldats les plus vaillants de les jeter au feu. Le feu a tué les soldats. Mais le feu n'a pas tué Shadrach, Meshach et Abednego. Amen.
Amen.
Vous savez, lorsqu'on a Christ avec nous, lorsqu'on a Dieu avec nous, les épreuves peuvent ne pas changer. Mais nous, nous ne devons pas changer. Je répète ce que j'ai dit. Lorsqu'on a Dieu dans notre vie, lorsqu'on a Jésus-Christ avec nous, les épreuves peuvent même s'empirer. Parce qu'au moment où ils disent ça, ils témoignent leur foi. Ils témoignent leur foi. Dieu aurait pu s'engager pour dire, « Ok, allez, Michael, pas toi. Allez, et puis arrive, un ange arrive là, comme il l'a fait dans le camp des Assyriens à une époque. Un ange a tué des milliers d'hommes. Il aurait pu le faire pour eux, parce qu'ils ont dit Dieu. Non, Dieu a voulu qu'ils entrent même dans la fournaise. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà envoyé son ange les attendre dans la fournaise. Car le roi a dit, c'est pas trois personnes qu'on a mis dedans, mais c'est bizarre, j'en ai vu quatre, et il y a un qui ressemble à un ange. Le Seigneur les a délivrés. Le Seigneur les a répondu à leur prière. Leur prière, ce n'était pas uniquement « Seigneur, délivre-nous. Seigneur, aide-nous à toujours garder la foi. » Car la première chose que Dieu a donnée à son peuple, tu ne prosterneras pas. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Chers frères et sœurs, ce matin, nous servons un Dieu vivant. Nous avons un Sauveur tout-puissant. Comme notre frère vient de lire pour nous, nous avons un souverain sacrificateur. Un homme qui comprend, qui sait, qui peut compatir à nos faiblesses. J'ai dit un homme, parce que Christ s'est fait homme. Il n'était pas demi-homme, demi-dieu. Il était entièrement homme et entièrement Dieu. Nous avons un frère, nous avons un sauveur qui veut nous sauver, qui veut nous délivrer, qui veut nous fortifier. Il nous donne son esprit pour que lorsque nous traversions des moments difficiles, que nous restions toujours accrochés à ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Père, lorsque nous traversons des moments difficiles, la première question que nous devons nous poser, Seigneur, c'est qu'est-ce que ta parole dit dans ces moments difficiles-là? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner au travers de nos épreuves? Car, Seigneur, des fois, tu envoies des épreuves dans nos vies afin que nous grandissions. Mais Seigneur, des fois, tu n'es pas à l'origine de ces épreuves-là. Tu n'es pas à l'origine des choses qui puissent nous détruire, Seigneur. Car tu es un Dieu bon et miséricordieux. Mais Seigneur, tu utilises ces choses difficiles, tu utilises ces épreuves, tu utilises, Seigneur, ces malheurs afin, Père Saint, de nous faire grandir dedans. Mais aussi, Seigneur, de nous montrer que tu es là avec nous, que tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, si nous nous appuyons sur nos forces, sur nos capacités, Seigneur, nous ne pourrions pas, Seigneur, nous en sortir. Mais si nous nous appuyons sur toi, Seigneur, nous pouvons endurer l'épreuve et nous pouvons sortir comme des hommes faits, des hommes adultes, des hommes matures, Seigneur, des hommes dont la foi ne peut pas être ébranlée, Seigneur. Père, nous voulons vraiment te remettre, Père Saint, nos cœurs. Si certains d'entre nous ont dû flancher, ont dû douter même, Seigneur, Je te prie de nous pardonner, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, aussi de nous fortifier. Afin que cette espérance, Seigneur, nous ne la mettons pas dans la délivrance, dans l'épreuve. Mais notre espérance, nous la mettons en toi, Seigneur. Toi, Seigneur, qui dépasse toute épreuve. Toi, Père Saint, qui es maître des circonstances et des temps. Peu importe les circonstances, Seigneur, tu es au-dessus. Peu importe la tempête qui vient, Seigneur, tu es au-dessus, nous l'avons chanté, Seigneur. Peu importe l'eau, Seigneur, où nous nous trouvons, Seigneur, c'est toi qui veux nous submerger, comme tu nous le dis dans ta parole, Seigneur. Ne vous inquiétez pas, les eaux ne vous submergeront pas, le feu ne vous brûlera pas, car tu es là avec nous, Seigneur. Que notre espérance, Seigneur, soit sur le fait que nous sommes enfants de Dieu, soit sur le fait, comme tu as dit à des disciples, que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Car, Seigneur, notre destination finale, ce n'est pas, Seigneur, cette terre, ce n'est pas ce monde, mais, Seigneur, c'est cette nouvelle terre, c'est ton retour, Seigneur. Souvent, nous oublions cela. Souvent même, Père Saint, nous ne sommes pas fixés, nous ne nous focalisons pas sur ce point, Seigneur. Ton Église attend ton retour, Seigneur. Nous sommes tous, Père Saint, des pierres vivantes que tu construis cette église, cet édifice que tu viens, Seigneur. Nous sommes tous, Père Saint, cet édifice que tu veux construire. Nous sommes tous, Père Saint, une pierre dans ce bâtiment. Aide-nous à ne pas être, Seigneur, des pierres qu'on laisse de côté, Seigneur. Mais Seigneur, aide-nous à vraiment faire partie de ton église. Seigneur, nous te remercions pour la joie aussi que tu nous donnes. Car notre vie n'est pas seulement des souffrances, n'est pas seulement des épreuves. Comme a dit Seigneur ton serviteur lorsqu'il a écrit ce chant, « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras combien le nombre en est grand. Apprends-nous, Seigneur, à faire ainsi, afin que nous puissions toujours avoir ta joie. Car la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. » Seigneur, aide-nous à trouver cette joie, la joie de t'avoir dans nos vies, la joie que de nous avoir choisi, la joie d'avoir des frères, des sœurs qui pensent à nous, la joie d'avoir des personnes qui prient pour nous, la joie d'avoir, Seigneur, de faire part, Seigneur, la joie de faire part à ton œuvre. Merci pour tout, Seigneur. Et Père, j'ai une pensée particulière, Seigneur, particulière pour Étienne, Seigneur. Je te prie, Seigneur, vraiment de le fortifier dans cette épreuve. Je te prie, Seigneur, de vraiment, Seigneur, de le bénir et de le toucher, Seigneur, de le guérir, Seigneur. Car telle est ta volonté. Car tes meurtrissures, tu les as eues afin que nous recevions la guérison. Seigneur, merci pour tout ce que tu es dans nos vies. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.